Chapitre 17. Plantée au milieu de la pièce, Vera sentait son pouls accélérer. Une ancienne patiente du service de psychiatrie de l'hôpital de Metz, ici, avec elle, au cœur d'une immense forêt enneigée. « Rafraîchissez-moi la mémoire, » répondit-elle d'une voix qu'elle tenta de garder neutre. « Vous ne me demandez pas comment je vous ai retrouvée d'abord ?» Vous avez raison, le mieux est de commencer par là, en effet. Évitez de la contrarier. Le cerveau de Vera tournait à plein régime. Il fallait à tout prix qu'elle se rappelle. Psychotique, hystérique, dépressive. La femme se dirigea vers la bibliothèque alors que Vera alla fermer le tiroir de la cuisine où étaient rangés les couteaux. Je dois vous avouer que l'un de vos anciens collègues, Philippe Lombard, m'a facilité la tâche. Il a la langue un peu trop pendue. » Elle piocha un livre, le feuilleta en silence, puis le remit en place et continua à scruter les étagères. « Il va bien, au fait. Le service de psychiatrie n'a jamais été aussi rempli. Par les temps qui courent, les dingos sont comme les feuilles mortes, ils se ramassent à la pelle. Dites, parmi tous ces romans policiers, vous n'avez pas dit Petit Nègre ? C'est mon préféré. » Nymphomane ? Perverse narcissique ? Vera avait beau se concentrer, elle ne voyait vraiment pas. « Il est chez André, l'homme qui vous a orienté jusque chez moi. Ça fait des mois qu'il est censé me le rendre, mais il oublie toujours. » L'index de Sophie glissait désormais sur les dos des bouquins de psychiatrie. « C'est fou votre maladie avec les ondes, là. Même un téléphone portable qui ne capte pas, vous ne supportez plus, il paraît. » Elle ne laissa pas à Vera le temps de prononcer le moindre mot et poursuivit. J'ai lu des trucs là-dessus avant de venir. Certains racontent que c'est juste dans la tête. Comment on dit déjà ? Psychosomatique ? Souffrir de migraines abominables, vomir ou déclarer du psoriasis, c'est concret, croyez-moi. Si vous vous êtes renseigné sur le sujet, vous devez savoir qu'un portable émet en permanence des micro-ondes pulsées qui traversent la peau et les murs, des champs magnétiques et des rayonnements infrarouges qui provoquent l'échauffement des tissus et des organes. Sophie, un peu agacée, s'empara du lourd DSM-5. Et c'est pour compenser votre intolérance aux technologies que vous avez eu besoin d'embarquer tous ces manuels, y compris cette fichue bible du bon petit psychiatre? Vera n'aimait pas le ton avec lequel elle s'adressait à elle, mais n'en montra rien. Ils appartenaient à la personne installée ici avant moi. Il était psychiatre lui aussi. L'inconnu écarquilla les yeux. Un psy? Et c'est vous qui me parliez de coïncidence à l'époque? Si ça, c'en est pas une. Elle commença à feuilleter le livre référençant toutes les maladies psychiques. Où est-il à présent, votre prédécesseur? Je n'en sais rien. Vera avait répondu sèchement. Elle en avait assez des questions et détestait la tournure que prenaient les événements. Derrière elle, les flocons s'écrasaient contre la fenêtre. Le vent sifflait dans la toiture. La tempête était là. Vera en voulait à son ex-confrère. Comment avait-il pu dévoiler l'endroit où elle se réfugiait à une ancienne patiente? Elle jeta un regard vers la fille venue de l'ombre. Sophie Henrichs. Elle réfléchit, et d'un coup, le choix du pseudonyme lui apparut comme une évidence. « Schizophrénie », souffla Vera. L'anagramme de Sophie Henrichs.
« Schizophrénie paranoïde, pour être précise. » répliqua la jeune femme. « Mais vous conviendrez qu'il était trop compliqué de trouver un pseudo avec ça. Pourtant, la mention paranoïde a toute son importance, n'est-ce pas? Symptômes courants, hallucinations visuelles, auditives, délire paranoïaque. Certains malades croient par exemple que des événements dont ils ont eu connaissance avant qu'ils ne se produisent vont réellement se produire. Vous voyez, moi aussi je pourrais être psy, à régurgiter les belles formules des bouquins. »
Ça lui revenait enfin. Vera acquiesça quand une image se dessina dans son esprit. Les prédictions, bien sûr, je me souviens de vous à présent. Vous n'étiez pas brune à l'époque et vos cheveux étaient beaucoup plus longs. Mais c'est vrai que vous vous habilliez déjà très souvent en rouge. En revanche, votre nom m'échappe toujours.
Sophie, ça ira, c'est comme ça que tout le monde m'appelle désormais. Sophie Henrichs.
Sophie, d'accord. La première fois, vous étiez venue à mon cabinet avec un imposant cahier dont vous aviez noirci des pages et des pages d'histoires dramatiques. Et vous assuriez que chacune d'entre elles s'était concrétisée des jours, des semaines, après que vous l'aviez écrite. La jeune visiteuse remit le livre en place et alla fouiller dans son gros sac de randonnée. Elle en sortit le cahier en question, ainsi qu'un classeur.
Je suis heureuse de constater que, malgré les années, je n'ai pas complètement disparu de votre mémoire. Le cahier est là, ainsi que le classeur dans lequel j'ai répertorié, par ordre chronologique, tous les articles de journaux relatant chaque prédiction. Il n'en manque pas une.
Elle posa le classeur sur la table et l'ouvrit. Vera se sentait oppressée, très perturbée. La voyageuse avait des engelures aux doigts. Elle avait sans doute passé la nuit précédente dans sa voiture ou dans l'ancienne boulangerie, à même le sol, puis avait parcouru des kilomètres dans la neige avec un sac bien plus lourd qu'il n'y paraissait. Sa visite avait un but, et ce but pouvait être dangereux.
« Vous m'avez diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, » continua-t-elle. « Vous m'avez convaincu que quelque chose clochait chez moi. »
Je n'étais pas la seule à travailler sur votre cas. Le bilan a été établi par plusieurs psychiatres et...
Peu importe, la coupa-t-elle. C'est vous qui vous êtes occupé de moi. C'est à vous que je faisais confiance. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. J'ai suivi votre traitement à base de neuroleptiques et d'antipsychotiques. Ce cocktail qui me faisait grossir et ressemblait à une patate, et à cause duquel j'avais l'impression d'être déconnectée du monde en permanence. Un zombie parmi les vivants.
Vera aurait bien bu un verre, là, tout de suite, histoire de se détendre. La plupart du temps, les schizophrènes paranoïdes n'avaient pas conscience de leur maladie. Leurs hallucinations ou leurs délires étaient, pour eux, réels. Ils pouvaient avoir des discussions très élaborées avec des gens qui n'existaient que dans leur tête, manger, vivre en leur compagnie, et, si leur environnement s'y prêtait, mener une vie tout à fait normale avant qu'un proche, un ami, un collègue, ne détecte les signaux d'alerte. Une fois confrontés à leurs troubles psychiques, certains l'acceptaient et étaient capables de prendre soin d'eux-mêmes, à condition d'être médicamentés et de rendre des visites régulières à leur psychiatre. Ce qui, croyait se rappeler Vera, avait été le cas pour Sophie.
« Il s'agissait de la meilleure solution, » répliqua-t-elle. « Et si mes souvenirs sont bons, les résultats que nous avions obtenus étaient encourageants. Nos séances se déroulaient dans de bonnes conditions. Au fil du temps, vous avez arrêté de dépenser votre argent dans l'achat de la presse quotidienne de tout le pays. » et à passer vos journées et vos nuits à l'éplucher en quête de vos prédictions. Vous avez commencé à redormir correctement, vous avez décroché un travail, votre vie sociale a repris. Tout ça grâce au traitement.
Le traitement. Vous les psys, vous n'avez que ce mot à la bouche. Le traitement ceci, le traitement cela. C'était quoi vos arguments déjà pour prouver que tout ça n'était que le fruit de mon esprit malade?
Vera réfléchissait. Il fallait qu'elle rassemble ses idées.
Combien de temps Sophie avait-elle été prise en charge à l'hôpital? Avalait-elle toujours ses médicaments? Ce qui était certain, c'était que, des années plus tard, elle ne s'était toujours pas débarrassée de ses articles ni de son cahier, et que ce n'était pas bon signe.
Mes arguments? On finit toujours par trouver ce qu'on cherche dans la masse des événements, répondit-elle. Surtout dans un monde où tout est retranscrit sur les réseaux. Vous prédisiez par exemple l'accident d'un motard de 31 ans, père d'un enfant, écrasé contre une glissière de sécurité sur l'autoroute. Des jours ou des semaines s'écoulaient, puis vous dénichiez un filet dans la rubrique des faits divers d'une feuille de chou quelconque.
Sophie tourna vite les pages du classeur.
Ah, vous n'avez pas oublié le motard? Oui, il est là. Il n'avait pas 31 ans, mais 36. L'information est parue dans West France exactement 5 jours après ma prédiction. 5 jours! Vous vous rendez compte?
Elle connaissait tout par cœur, ce qui était en soi effrayant si on considérait que des centaines de coupures avaient été soigneusement consignées au fil du temps. Vera ne montra pas son trouble pour autant.
« Ce n'était qu'un exemple, » répliqua-t-elle. « Je ne me souvenais plus de ce motard en particulier, mais je vous l'ai dit à l'époque, il se produit chaque année en France des milliers d'accidents de moto relayés par la presse. Alors, statistiquement, votre prédiction avait de grandes chances de se réaliser avec vos critères exacts. L'âge, les circonstances, la situation familiale, parfois le lieu. Et quand ce n'était pas le cas, vous affirmiez que ce n'était qu'une question de temps. »
Sophie hocha la tête avec conviction.
« Et j'avais raison !» s'exclama-t-elle en reprenant son cahier. « Tout ce que j'ai écrit là-dedans a véritablement eu lieu. Vous pouvez vérifier. Écoutez ce que j'ai noté il y a 7 ans, largement avant qu'on se rencontre. Une jeune femme enceinte va mourir. Elle est au sol, à côté de plusieurs tables rondes, il y a du monde. Des gens bien habillés cherchent à joindre le SAMU, à deux ou trois reprises, avant qu'une ambulance ne soit dépêchée. Quand les secours débarquent, il est trop tard. Sitôt sa lecture terminée, elle fit pivoter le classeur vers Vera. Un encart extrait de l'Écho républicain. Un gros titre effrayant de sobriété. Mort tragique. De nombreux inconnus demeurent après le décès d'une femme enceinte de 26 ans, dimanche 27 septembre, en Eure-et-Loire. Elle a été prise de malaise pendant une soirée dans une salle des fêtes de Chartres. Sa famille a contacté le SAMU et c'est seulement après trois appels qu'une ambulance a été envoyée. Mais il n'y avait malheureusement plus rien à faire pour la sauver. Vera était troublée. Il fallait avouer que les similitudes étaient dérangeantes et que ce n'était pas le genre de drame qui arrivait tous les jours. Mais ça arrivait. La preuve. Elle jeta un œil à la date de l'article. « Ça s'est passé 4 ans après votre prédiction. Je vous l'ai dit, avec le temps, on... La règle qui définit le délai entre le moment où un événement me parvient et sa réalisation n'est pas encore très claire. Pourquoi il s'écoule parfois 2 jours et parfois 2 ans. Mais vous ne pouvez nier les faits. Il y a dans mon cahier 2584 prédictions qui se sont toutes réalisées. C'est ça pour vous la schizophrénie ?
Je vous crois, Sophie, ce n'est pas la question.
Je ne suis pas schizophrène. J'ai un don qui me rend spéciale. Certains communiquent avec les esprits, d'autres trouvent des sources d'eau ou visualisent les auras de ceux qui évoluent près d'eux. Moi, je sens certains drames avant qu'ils se produisent. Mais on n'aime pas la différence dans notre société. On déteste ce qu'on ne comprend pas, ce qui échappe aux lois, à la science et à la religion. Alors ce don a fait de moi, à vos yeux et ceux de vos collègues, une malade mentale.
Vous vous trompez.
Je sais que vous me prenez pour ce que je ne suis pas. Mais pourquoi n'existerait-il pas des gens plus sensibles que d'autres ? Vous en êtes un bon exemple, non, avec vos ondes. Elles vous sont insupportables alors qu'elles sont invisibles, que personne n'y prête attention.
Ça n'a rien à voir, c'est...
Pourquoi ? Pourquoi vous, vous pourriez percevoir quelque chose qui ne se voit pas, qui n'a pas d'odeur, ne fait pas de bruit, et pas moi ? J'ai toujours eu ces visions au fond de moi, depuis toute petite. L'impression que je pouvais sentir les événements tragiques. Un jour, je me suis décidée à écrire ces informations que je recevais malgré moi, puis à les rechercher. Et j'ai découvert qu'elles arrivaient pour de vrai. Accidents, explosions, incendies, disparitions. Tous ces malheurs ont brisé des familles. Où est le délire là-dedans ? Qu'ai-je inventé ? Rien du tout. Et j'aurais peut-être pu employer mon énergie à trouver un moyen d'aider ces gens, au moins essayer de les prévenir de ce qui les attendait. Ne croyez-vous pas que cela aurait pu changer le cours de quelques destins ?
Vera lorgna vers la radio Sibi. Elle aurait bien aimé qu'André l'appelle maintenant.
« Je ne saisis toujours pas pourquoi vous avez fait tout ce chemin, » fit-elle. « Comme vous le voyez, j'ai tout abandonné. Je n'exerce plus la psychiatrie, je n'ai plus aucun contact avec l'hôpital. Ma seule activité consiste à réhabiliter un hameau avec d'autres hyper-électrosensibles en espérant pouvoir y vivre dans de bonnes conditions un jour et y accueillir, pourquoi pas, des écotouristes. Je suis désolée, mais le reste appartient au passé et je ne vais vous être d'aucune utilité. »
Sophie Henrichs planta ses yeux dans les siens. Elle commençait à s'énerver.
« Vous ne m'écoutez pas. Je n'ai pas besoin que vous ou vos anciens collègues me soigniez, puisque je ne suis pas malade. Vous m'avez fait perdre 2 ans de ma vie et vous avez failli me convaincre que tout ceci n'était que pure invention de mon esprit. L'effet Martha Mitchell, ça vous dit quelque chose, je suppose ?»
Vera acquiesça. Parfois, les psychiatres considéraient à tort qu'un patient délirait alors que ce dernier relatait un événement bien réel. Sophie agita les mains devant elle en signe d'apaisement alors que Vera faisait un pas en arrière.
« Oh, ne craignez rien. C'est vrai que je débarque chez vous comme ça avec mes vieilles histoires et une tête qui doit faire peur. J'en suis confuse. »«
Ça va.
Je n'ai pas l'intention de me venger de quoi que ce soit ou de vous faire du mal. Surtout pas. Vous savez que je ne suis pas méchante. C'est même tout l'inverse. Si je suis ici, c'est pour mettre enfin mon don à profit en vous venant en aide. »
Vera tressaillit.
« Me venir en aide ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?»
La jeune femme ne répondit pas. Elle ôta son écharpe et la suspendit à un dossier de chaise. Pour l'ex-psychiatre, une seule conclusion s'imposait. Sophie avait arrêté tout traitement. Elle était très maigre et avait les yeux cernés.
Certainement enfermée chez elle et coupée du monde à cause de sa maladie depuis un moment. Sa schizophrénie s'était-elle aggravée? Vera aurait été bien incapable de l'affirmer, mais il lui parut essentiel de redoubler de prudence. Vous avez eu une prédiction me concernant? Vous avez vu quelque chose qui pourrait m'arriver?
L'autre hocha la tête.
Montrez-moi.
Chaque chose en son temps. D'abord, il faut que je vous prouve que je ne suis pas folle et que vous vous êtes trompée. Dites, ajouta-t-elle sans transition en pointant du doigt la cafetière sur le poêle. J'en veux bien un peu. Avec du sucre. Beaucoup de sucre. Je suis à plat. J'en ai grand besoin.
Vera alla chercher la cafetière, une tasse et le sucre en morceaux.
Vous vous rappelez quand je vous disais que j'écrivais depuis mon enfance? Continua Sophie. J'ai toujours eu une imagination très fertile et j'aimais bien retranscrire avec des mots les images que je voyais dans ma tête. Ça a été pareil lorsque j'ai rédigé ce livre, La fille venue de l'ombre. Cette enquête a jailli du fond de mon cerveau un matin et ne m'a plus lâchée. J'y ai mis mes tripes. Je ne suis plus sortie, comme saisie par une fièvre créatrice. C'est une sensation incroyable.
Elle prit en main son roman, l'ouvrit au niveau du marque-page. Vera lui servit son café et se versa une belle dose d'alcool. Lorsqu'elle présenta la bouteille à Sophie, celle-ci déclina.
« Merci, mais il ne vaut mieux pas que je boive. Ça me fait délirer. »«
Qu'est-ce que ça doit être, alors ?» pensa Vera tout en remarquant la façon dont sa visiteuse observait la bouteille de vodka à moitié vide.
« Je vous rassure, je ne suis pas alcoolique. »
se sentit-elle obligée de préciser. « C'est juste que un ou deux verres par jour, ça m'aide à... supporter tout ça. »
Je ne suis pas spécialiste, mais, à mon avis, deux verres de vodka par jour, on doit pouvoir considérer ça comme de l'alcoolisme.
Vera eut un rire nerveux devant une si franche répartie. Une chose était sûre, cette femme ne prendrait pas de gants pour dire ce qu'elle avait à dire.
Revenons-en à votre livre, si vous voulez bien.
Mon livre, oui. Le monde de l'édition est très compliqué. Et au début, personne ne souhaitait me publier. Les arguments des éditeurs, trop classiques, déjà vus, trop crus. Pour eux, La fille venue de l'ombre n'était a priori qu'une histoire de plus entre une victime et son bourreau. Au final, je n'ai trouvé qu'une toute petite structure régionale qui m'a fait confiance. Le roman est sorti il y a 2 ans et n'a été imprimé qu'à 1000 exemplaires. De toute façon, on avait très peu de chances d'en vendre davantage vu le nombre de polars qui paraissent chaque semaine. Mais peu importait, au moins, il existait. Ça me rendait heureuse. Ça me prouvait que j'étais capable de faire quelque chose de ma vie.
Elle mit 2 morceaux de sucre dans sa tasse, mélangea et but une gorgée. Vera en fit autant avec sa vodka. La brûlure de l'alcool lui fit du bien.
À l'époque, j'allais dans les salons de province pour me faire connaître. Quelques lecteurs me l'achetaient et je me débrouillais pour compléter avec des heures de ménage à droite à gauche. Enfin, bref, je vois que vous l'avez commencé. La fille qui disparaît, vous voyez?
Difficile de faire autrement. Il n'y a que 2 personnages dans ce livre. Sophie lui tendit l'ouvrage.
Lisez le chapitre suivant. Seulement après, je vous montrerai quelque chose qui vous prouvera à quel point vous vous êtes planté en ce qui me concerne.